France.fr.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet. Je vous donne rendez-vous pour des enregistrements du jeu des 1000 euros. Aujourd'hui, mardi, dans l'Eure, à Saint-Germain-sur-Avre. Rendez-vous à 18h30. Et demain, mercredi, en Eure-et-Loire, à Lèves, également à 18h30. Les sélections se font sur place à la même heure.
France Inter.
La voix est libre.
15h04, c'est l'heure de Là-bas, si j'y suis, avec Daniel Mermet. On écoute d'abord le répondeur.
Je m'inquiète pour notre François. Depuis 9 mois qu'il est aux manettes, pas un moment de répit. Des licenciements en pagaille et paf, des grèves. Les ultra-cathos défendant la sainte famille. Et Evelyn, des manifs. Des médicaments mal foutus et bing, des morts. Jusqu'à la tuberculose qui fait un retour en force. Heureusement que les Maliens nous le requinquent. La foule en liesse, les ovations, de la musique traditionnelle. Ben oui, mais hé, il a osé la guerre aux terroristes. Cela dit, une lutte acharnée contre la misère, un combat musclé contre l'injustice et une bonne guerre contre le MEDEF et la finance, ça lui vaudrait le même genre de réception ici. On irait peut-être même jusqu'à chanter et danser la carmagnole, va savoir. C'était Christine du Limousin.
Daniel, mes félicitations pour ce reportage sur Stalingrad. Je dois te dire, pour l'avoir vécu, cette victoire, c'est le début de l'espoir. La guerre totale que se sont livrées les deux armées, au bilan éloquent, 21 millions de morts, des centaines de radours et 3000 km de front qui affaiblissaient l'armée allemande devant faire face au débarquement en Normandie. En somme, il suffit d'imaginer l'absence du front russe et la France transformée en champ de ruines pour accueillir le débarquement américain. Je remercie encore une fois.
Avril 42. En pleine nuit, nous sommes réveillés brutalement. Des cris, des coups violents sont frappés à la porte de notre grange. « Sortez de l'étable !» dit une voix gutturale. « Pourquoi ces cris? Que veulent-ils encore ?» La porte s'ouvre brutalement, les soldats allemands se dressent devant nous, armés jusqu'aux dents. « Vous deux !» hurle un soldat en me désignant et désignant Lisa. « Suivez-nous !» Ils nous bousculent, nous traînent vers les camions. Nous avons juste le temps de prendre nos affaires personnelles. Dans ce tourbillon de violence, de crainte, de peur, sous les cris et les coups, nous montons dans les camions, les véhicules démarrent, la route s'éloigne. Adieu, adieu la Russie. Nous partons, où partons-nous? Valentina Nikolaevna Tichonova, c'est ma maman. Elle s'est enfuie du siège de Leningrad et était enlevée par les nazis en 42 près de sa ville natale Novgorod-la-Grande. Emmenée dans les wagons à bestiaux, si bien décrits par Georges Semprin, en Allemagne dans un camp de travail près de Stuttgart. Délivrée par les troupes américaines, est arrivée à Roubaix en mai 45. Avec ses diplômes en poche de professeur en pédagogie, elle est regardée comme un être de seconde zone, une russe bolchevique ignare. Servante chez les Mulliers, elle finit sa carrière professeure assistante de langue russe dans les plus grands lycées de Lille aux arts et métiers. Depuis ma naissance, moi, sa fille, je vis cette souffrance qui sévit encore alors que ma maman a 90 ans. Alors j'ai décidé d'écrire son histoire. Merci à vous Daniel pour votre émission. Annie de Roubaix.
Le repère de Là-bas si j'y suis, de Nîmes et de ses environs, aura lieu ce mercredi 6 février à partir de 19h au bar des Ramblas. On vous attend nombreux, mercredi à partir de 19h.
Bonjour, bien de recevoir mon troisième appel de la journée d'un centre d'appel là, pour me refourguer des panneaux solaires. Donc mes scoutis, je vais essayer de discuter avec la personne qui est au bout du fil parce que souvent c'est des gens qui ont l'air d'appeler de Tunisie, du Maroc, tout ça. Du coup là, je l'ai un peu embobiné, je lui ai raconté que j'étais proprio et on a pu discuter après. Donc voilà, elle vient de Tunisie, elle gagne 100 euros par mois avec ça. Et puis c'est MMA qui a payé l'appel, donc c'est assez marrant. Puis comme ça, on peut communiquer avec des gens à l'autre bout du monde. C'est tout ce que j'avais à dire. Allez, bisous, au revoir.
Eh ben alors ça, c'est un hasard formidable, ce dernier message. Merci d'abord pour tous les messages que vous avez laissés dans le répondeur de Là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Mais ce dernier message, c'est étonnant. C'est étonnant qu'un auditeur nous parle des centres d'appel tunisiens, parce que c'est là qu'on va aujourd'hui. C'est là qu'on part. On part à Tunis sur le thème des centres d'appel. C'est une activité, vous le savez bien, en Tunisie, au Maroc surtout. Et ça nous a semblé un moyen. un moyen, j'allais dire un bon moyen, un moyen en tout cas, d'essayer de comprendre un petit peu où en est la Tunisie aujourd'hui, 2 ans après la révolution du jasmin, vous vous souvenez de cet enthousiasme, il y a 2 ans, certains d'ailleurs là-bas avaient vu quelque chose d'un peu un orientalisme un peu touristique dans cette façon de baptiser leur révolution de jasmin, la révolution Facebook. Vous vous souvenez de cet enthousiasme extraordinaire, d'autant plus extraordinaire que il était manifesté souvent par des médias et des journalistes qui n'avaient jamais foutu les pieds en Tunisie auparavant, au temps où la Tunisie et les Tunisiens et les Tunisiennes souffraient sous la botte et sous le joug et sous la torture de Ben Ali, qui fut, comme vous savez, indéfectiblement soutenu par la France, enfin par la classe politique et parfois même intellectuelle française. Et ben il y avait pas grand monde à cette époque-là pour aller faire des tours en Tunisie. Et puis il y a eu la révolution de jasmin enthousiasmante, etc. Ah là là, quelle exaltation! Et puis maintenant, bon, ben voilà, on a compris ce qui se passe pour les médias français qui savent tout puisqu'ils sont français. Les révolutions dévorent toujours leurs enfants. Ça finit toujours mal. Et là, ça finit avec des barbus. Il y a des barbus partout dans le monde. Mais surtout en Tunisie, ils arrivent, ils ont vraiment des couteaux entre les dents. Et alors, ils rendent les choses absolument impossibles. Ils mettent le feu dans les mosquées. Ils obligent les femmes à porter des burqas. Bref, enfin, c'est vraiment surtout n'allez pas en Tunisie. Voilà ce que nous disent une partie des médias français. On va voir que c'est pas ça le problème essentiel en tout cas pour les Tunisiens aujourd'hui. C'est qu'est-ce qu'on va faire de cette révolution? Est-ce qu'on va réussir? Est-ce que ça va? Ils sont exaspérés, ils sont tendus. Mais le cœur de la révolution est toujours là. On l'entend battre, même si c'est un réveil cabossé. C'est là quand même, malgré tout. C'est pas facile, c'est tendu. Les requins sont là, les pervers sont là, les anciens sont toujours là. Ils n'ont pas dit, bon, on arrête, on a été méchant, on s'excuse, et puis maintenant, on va être gentil. Non. C'est très compliqué, une révolution. Mais il n'y a pas de modèle non plus. Les Tunisiens n'ont pas de modèle. Il faudrait, tout dans l'histoire du monde, il faudrait retourner aux révolutions de 1848 en France, le printemps des peuples, où effectivement il y a eu, à partir d'émeutes en France, les pays d'Europe se sont soulevés et puis les monarchies sont revenues, il y a révolution contre révolution, mais ça a été 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Et puis la marche de l'histoire a continué, comme vous le savez. Est-ce que ce scénario va se reproduire là? Personne n'en est sûr. La révolution, c'est l'irruption du possible dans la vie réelle. Voilà, c'est l'irruption du possible. Des possibles, vous pouvez mettre ça au pluriel, si vous voulez. Et c'est ce que vivent nos amis tunisiens depuis 2 ans, c'est l'irruption des possibles, avec toutes les angoisses, les inquiétudes que cela suscite. Et la première angoisse, la première inquiétude, c'est la liberté. Rien n'est plus emmerdant que la liberté, parce que surtout la liberté de penser. Parce qu'il faut penser, il faut réfléchir. Et ça, c'est emmerdant. La dictature, c'est formidable. Vous n'avez qu'à vous taire ou geindre. Là, il faut réfléchir beaucoup, beaucoup. Et c'est ce qu'ils font actuellement, les Tunisiens et les Tunisiennes. C'est pour ça que c'est un pays génial, qu'on aime, et on a adoré être là-bas la semaine dernière. Auparavant, Anaëlle aussi a fait un tour en Tunisie, a travaillé en Tunisie. On va entendre son reportage aujourd'hui. Voilà, c'est cette excitation, cette angoisse, cette peur, cette crainte, cette exaspération, cette déception, c'est tout ça mêlé qu'on va essayer de retrouver avec vous au cours de cette série de reportages en Tunisie. La Tunisie, le réveil cabossé. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour là-bas, si j'y suis. Bonjour les AMG. Je suis Julia de Paris et je fais partie du collectif de soutien à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et on organise un concert pour récolter un peu de sous pour l'organisation du collectif et pour la ZAD. Vendredi 15 février à la Parole Errante à Montreuil, métro Croix-de-Chavaux. Donc vous êtes tous invités, j'espère qu'on sera très très nombreux. Il y aura de la musique bretonne, de la musique parisienne, ce sera pas cher, l'entrée c'est à prix libre. Et puis ensuite, voilà, tous les fonds récoltés serviront à la lutte. J'espère que vous viendrez nombreux, merci.
Bonjour à tous les AMG. Le prochain repère de Ussel en Corrèze aura lieu mercredi 6 février. Rendez-vous comme d'habitude 18h30 au bar Le Troubadour, place de la République, au premier étage. Ce repère sera consacré à la souffrance au travail. Notre ami Dominique Léniaud, psychologue, nous parlera de ce symptôme grave du néolibéralisme. La manipulation psychologique est devenue mode de fonctionnement qui généralise la servitude volontaire et casse les solidarités. Nous vous attendons nombreux. À bientôt.
C'est la place de la Casbah, en fait, donc, qui est juste devant le siège du gouvernement et qui est barricadée par le gouvernement pour pas qu'il y ait des sit-in là, comme les sit-in historiques qu'il y a eu janvier-février 2011. Il y a un rassemblement là, juste en face de nous, au milieu des drapeaux tunisiens. Là, il y a une flopée de drapeaux tunisiens qui volent dans les airs. C'est magnifique là, sous ce soleil d'hiver, mais très doux. Nous sommes les blessés de la révolution. Nous avons été reconnus comme tels. Nous avons la carte. Voici la carte. Ils nous ont trop fait attendre. Il n'y a ni jugement, ni procès, ni rien.
Et vous avez été tous les deux là. On est avec deux jeunes hommes. Vous avez quel âge ?
24.
26.
Et vous avez participé à la révolution.
شاركنا في الثورة وتضربنا في الثورة وأنا خرجت حتى كي باش نتضرب حتى كي يموت عطيت الاخر
البلاد
لبلادي عطيتهم
Oui, on a participé à la révolution, on a été blessé par balle et moi je m'en foutais, même si j'allais mourir, je suis sortie pour mon pays contre Ben Ali. Je vais vous montrer une séquence vidéo de pour que tu saches comment se comporte ce gouvernement avec les policiers qui nous ont blessés.
Donc on est tous autour du téléphone.
Ça a été filmé et pourtant les policiers ils ont eu une promotion et ils sont libres. Ils n'ont pas été punis, il n'y a pas eu de procès. Voilà les gens qui ont fait la révolution, regardez-nous. On crève la dalle, on a fait la révolution, on crève la dalle.
Là on voit des personnes qui courent, c'est une manifestation. Il y a quelqu'un qui est à terre. Il y a quelqu'un qui est par terre, qui est blessé là, qui a pris une balle. Voilà, il y a des personnes qui se précipitent autour de
lui. Regardez le sang, il saigne. Le sang. Il a été blessé à la jambe.
C'est
on dirait qu'il chasse des lapins. Ils ont été relâchés, ceux-là. On a porté plainte, ils ont été relâchés.
Elle date de quand, cette vidéo ?
13
janvier.
13 janvier 2011.
Un jour avant le départ de Ben Ali,
c'est ça.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Anaël Verzo. Tunisie, le réveil, cabossé.
Flight number 2, arriving from New York.
La loi, elle concerne deux groupes et les deux groupes se chamaillent.
Il y a deux voies, mademoiselle, il y a deux voies. La première, c'est l'amnistie générale. Le second, c'est les blessés de la révolution.
La loi de l'homme La loi du travail, elle concerne les familles des martyrs, les blessés de la Révolution et ceux qui ont eu l'amnistie générale, les anciens prisonniers politiques. Et finalement, aucun de ces trois groupes n'a eu une embauche.
بالنسبة للحكومة هذه حكومة بن علي تتسمى أهون اللي عملوا بن علي ما تسمى أهون
شنو أهون
Ce sont des anciens prisonniers politiques. Ils passent à côté des blessés de la Révolution. Ils entendent qu'ils disent Ben Ali c'était mieux. Ils s'énervent. C'est nous qui avons été torturés avant. Tu vois, voilà où on en est. On est divisés, tu vois. C'est des opprimés contre d'autres opprimés. C'est le résultat. Voilà, tu veux savoir comment il est le pays. Voilà. Tout le monde se dispute, sauf les gens qui sont là-haut, comme d'habitude. Voilà. Tout le monde est opprimé. Moi, je suis plus opprimé que toi. Non, c'est moi.
Un beau jour et beaucoup de lendemains, la révolution, madame la révolution, un beau jour et beaucoup de lendemains, des divisions, des illusions et des désillusions, et là la concurrence des victimes. C'est que la révolution, madame la révolution, fait des copeaux. Elle fait des copeaux. Des copeaux sanglants, des copeaux blessants, blessés, qui laissent des traces, qui ne se referment pas comme ça soudain lorsque les journalistes sont allés voir ailleurs, respirer d'autres parfums de jasmin là où ils voudront bien. Non, les Tunisiens sont restés en Tunisie avec ses blessures, avec ses mémoires, avec ses histoires. Et là, au coin de cette rue, il y a les islamistes victimes des tortures sous Ben Ali qui manifestent, et ils ont bien raison, et ils demandent justice, et ils ont bien raison, et ils demandent réparation, ils ont bien raison. Sauf que ces islamistes qui ont beaucoup souffert que Ben Ali a réprimé et a torturé n'ont pas fait la révolution. N'ont pas fait la révolution. Mais ils sont victimes et ils ont des droits à réparation et droits surtout à la justice. Et puis sur l'autre trottoir, vous avez compris, il y a des blessés de la révolution. D'il y a deux ans, des rues de Tunis ou de Gafsa ou d'ailleurs, qui ont été blessés au cours de ces manifestations. Et qu'est-ce qu'ils demandent, ces jeunes gens, pour la plupart jeunes gens? Il y a des filles aussi, et il y a des gens moins jeunes. Qu'est-ce qu'ils demandent? Eh bien, justice, et ils ont bien raison, et réparation, et ils ont bien raison. Sauf que ce n'est pas les mêmes histoires, les uns et les autres. Et c'est vrai que c'est navrant de voir opprimé contre opprimé en venir aux mains. Mais vous avez repéré la phrase « Aucun de nous n'a eu d'embauche ». C'est ça qu'ils réclament avant tout. C'est ça qui leur a été promis. C'est ça le plus important dans ce pays. Est, c'est pas les barbus avec le couteau entre les dents, c'est pas ça le plus important. Le plus important, le terrorisme en Tunisie aujourd'hui, c'est le chômage, c'est la vie chère, c'est les inégalités régionales, c'est les voleurs de révolution, c'est les semeurs de chaos, c'est ceux qui entravent la justice et qui empêchent toute réconciliation. Il faut la justice, mais on ne sait pas laquelle. On ne sait pas laquelle. On appelle ça une justice de transitionnelle. Voilà le mot qu'on a trouvé. On essaye de la mettre en place. Il y a beaucoup de bonne volonté là-dedans, beaucoup de bavardage, beaucoup de recherches, beaucoup de pièges très nombreux. Mais comment on fait la justice? Comment on a fait dans les histoires précédentes, dans les épisodes précédents, dans les révolutions précédentes? Mais lesquelles? À quoi comparer ce qui est arrivé à la Tunisie? On sait qu'il faut la justice, mais on ne sait pas exactement laquelle. Qui faut-il condamner? Quels tribunaux? Quelle épuration? Et puis, Il y a un problème. Le premier problème, c'est comment continuer de faire marcher la machine de l'État, la machine du pays, tout en changeant les pièces pourries, les pièces dont on ne veut plus, les pièces, les traîtres, les salauds, les tortionnaires, les flics, ceux qui ont été compromis. Comment les enlever, les remplacer? Par qui? Et par quoi? Comment on fait dans ces cas-là? Souvenez-vous, Maurice Papon, il a eu des rôles éminents dans la Ve République. Est-ce que ceux qui l'employaient comme ministre ou comme trésorier d'un très grand parti ignoraient ce qu'il avait fait durant la Seconde Guerre mondiale? Non, mais il était une pièce indispensable. C'est ainsi, on est obligé, pour conserver la marche de l'État, de garder des pièces indispensables qui se sont rendues indispensables, même si on déteste les hommes que sont ces rouages, qui sont ces rouages. Voilà des problèmes auxquels ce petit pays, ces 11 millions de Tunisiens ont devant eux. C'est pas simple, et c'est passionnant quand même. C'est passionnant parce que c'est pas cuit, c'est pas foutu. On voit que le parti Ennahda qui domine a l'air de se radicaliser, mais il y a des forces qui s'opposent à cette radicalisation. Bref, les Tunisiens sont en train de faire de la politique. Et c'est une jeunesse, et c'est un printemps. Nous, du haut de notre vieux pays, aguerri, amorti, qui sait toutes choses et qui regarde les choses de haut avec ce petit sourire cynique qui nous est propre, surtout à Paris. Il faut vraiment s'en dispenser si vous voulez écouter ce qu'on vous va vous faire écouter dans les jours prochains. Et puis surtout, et puis dans cette émission aussi d'aujourd'hui, et puis surtout si vous avez un endroit où aller, c'est aller faire un tour en Tunisie. Allez voir les Tunisiens, les plages, ce sera pour plus tard. Allez à Tunis, allez à Gafsa, allez à Bizerte, allez à Siliana, allez parler avec les Tunisiens. Vous allez voir ce que c'est que la patte politique, le moment où l'histoire se fait et où chacun peut y contribuer. Ce moment où le possible, les possibles font irruption dans la vie réelle. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis. Tunisie, le rêve cabossé.
Il s'appelle
Hiram.
Il a quel âge?
10 mois.
10 mois, c'est votre enfant à tous les deux.
Exactement, 10 mois. Sabrine.
Là, on vient d'arriver chez Tara et Sabrine. Dans un appartement, rez-de-chaussée. Les tapis, les lits pour le bébé. Une petite guirlande qui est restée accrochée sur la fenêtre. Toi, Sabrine, tu as travaillé dans un centre d'appel en voyance.
Oui. Asus.
Asus.
Oui.
Salam. Quelqu'un qui vient de rentrer pour déposer un pack de lait.
C'est une denrée rare, le lait, ces jours-ci en Tunisie. On a un gros problème de lait. Alors, il y a eu un problème avec les agriculteurs parce que l'État n'a pas voulu racheter toutes les quantités de lait qui ont été produites. Les agriculteurs, il fallait qu'ils prennent les charges de transport du lait jusqu'à l'usine où ça se transforme en poudre. Hein, séché, mais bon, l'État a trouvé ça un peu trop cher, n'a pas pu le prendre en charge. Ensuite, le prix du lait a augmenté. Ensuite, on a dit qu'on allait importer du lait. Ils ont importé du lait. Et on a vu un truc qu'on n'avait jamais vu depuis l'indépendance, depuis 50 ans, le lait qui se vendait au marché noir. Et le paquet de lait, ça se vendait 3, 4, 5 fois plus cher. Et on t'obligeait à prendre des yaourts avec. Bref, c'était très compliqué. Voilà, donc c'était...
Et aussi, généralement, la plupart, ils vendaient du lait entier, qui est plus cher en plus. Ça fait presque deux baguettes.
Deux baguettes de pain.
Ah bah oui, c'est comme ça que ça commence, avec des petits problèmes quotidiens, domestiques, mais la révolution, c'est ça. Les lendemains de la révolution, c'est ça. Vous avez compris, on est avec Enda, celle qui parle du lait, là, c'est Enda, c'est notre traductrice. Et puis, on est avec Sabrine et Taha, son compagnon. Et alors, on est là parce qu'on veut faire un sujet sur les centres d'appel, mais vous allez voir comment on ne va pas forcément beaucoup en parler. C'est une occasion de rencontrer voilà, un jeune couple avec un enfant à Tunis. Et Sabrine, elle a fait un boulot particulier dans les centres d'appel. Elle faisait de la voyance. Les gens qui appellent, voilà, on appelle Madame Irma maintenant, bah c'est par téléphone. Et c'est elle qui répondait, qui était au bout du fil, ou comment nos anciens colonisés deviennent le déversoir de nos angoisses.
J'ai oublié le truc.
Le tarot.
Là, c'est ton jeu de tarot.
Ah, c'est un vrai jeu de tarot. Mmh.
Je ne l'ai pas utilisé.
Non, il est neuf, le jeu.
Généralement, les personnes qui appellent, ce n'est pas parce qu'elles croyaient à la voyance, mais elles ont besoin de parler. Donc, elles appellent, elles payent. En fait, même 1000 et 1200 euros, elles prennent des forfaits de 2 heures et 3 heures juste pour parler. J'ai eu une femme, vraiment, je n'utilise pas le tarot, je ne dis rien du tout, seulement j'essaie de la rassurer, de parler avec elle, et elle m'appelle chaque jour presque. Elle me disait, j'ai pris des crédits, j'ai plus d'argent, et elle appelle.
Tu avais combien d'appels par jour à peu près ?
Au début, j'ai commencé par traiter des SMS, on travaille par SMS aussi. J'arrive à faire les 600 SMS par jour. Il y a des personnes qui envoient environ les 80 SMS. Oui, une seule personne peut envoyer 80 SMS. Pour les appels, il y a des jours où je reçois des appels qui durent 2 heures et 3 heures, comme ça je ne reçois pas beaucoup d'appels. Sinon, il y a des jours où je reçois une centaine d'appels.
Et vous travaillez combien d'heures par jour ?
9 heures avec une demi-heure de pause.
Payé combien ?
Le salaire, il est seulement à 300 dinars.
Alors 300 dinars, ça fait à peu près 150 euros.
Mais les voyants sont très bien payés parce qu'il y a des primes qui sont très intéressantes.
Et t'as fait ça combien de temps ?
6 mois.
Et le bébé ?
Non, j'avais pas le bébé, c'était en 2010. La période du janvier, février, mars, il y avait le couvre-feu, et même après le couvre-feu, c'était pas bien sécurisé, et on peut pas rentrer 1 heure et 2 heures, même je rentre quelquefois 2 heures et 3 heures du mat, donc on peut pas rentrer à 7 heures, puisqu'il n'y a pas de sécurité. Donc il nous a loué des appartements.
Ah !
Oui, tellement ils sont en train de gagner de l'argent, au point qu'ils peuvent louer des appartements à condition que les personnes y travaillent.
Donc du coup, vous avez travaillé pendant le couvre-feu.
Oui.
Et en même temps, vous avez participé à la révolution.
Le 14 janvier, le 15 et le 16, on n'a pas travaillé, bien sûr.
Sabrine, quand tu dis ils font des tas de bénéfices et du coup, ils peuvent louer des appartements spécialement pour le couvre-feu, c'est qui ils ?
La société, c'est la société Astragale, en fait. Ils ont même des cabinets en France, des cabinets de voyance. Et ils ont implanté, en fait, ces centres d'appel à Tunis et à Sousse. Et même, on a des voyants qui viennent spécialement de la France pour nous former.
Ah bon ?
Oui. Généralement, dans les centres d'appel, c'est pénible de travailler, en fait, au sein des centres d'appel. Et surtout, dans ce centre. Parce que déjà, à la fin, j'ai déprimé. Et même, j'ai vu un psychiatre. Parce que, imagine, tu passes toute la journée en écoutant les histoires des personnes qui sont déprimées déjà, des personnes qui ont des problèmes. Et tu travailles la nuit, tu dors le jour, tu fais rien dans ta vie que en fait écouter leurs histoires en fait.
Et alors maintenant Sabrine, tu travailles dans une association qui lutte contre la torture. C'est mieux.
Oui, bien sûr. C'est quelque chose que j'aime faire et où je me trouve bien.
Il doit y avoir pas mal de travail, parce que sous Ben Ali, la torture s'était pratiquée de façon courante. Du coup, est-ce que vous vous occupez des cas de torture qu'il y a eu sous Ben Ali, maintenant, rétrospectivement ?
Oui, oui, oui. De Ben Ali, même de Bourguiba. On est en train de reprendre les dossiers de la torture du régime de Ben Ali. Ça existe encore, elle continue en fait la torture, jusqu'à maintenant.
Elle continue la torture ?
Oui.
Aujourd'hui, il y a des cas de torture ?
Oui.
Où ça ? Qui torture ?
Les policiers, dans les postes de police, dans la rue. Oui. On a déjà un cas de Nabil Larari, je ne sais pas si vous avez entendu de son histoire. Il a été arrêté.
Parce qu'il a dirigé les mouvements de Syliane. Il a été
arrêté. Il a été torturé en prison, et avant même d'aller en prison, hein, donc dès qu'il a été arrêté, il a été torturé, donc il voulait porter plainte pour agression, pour torture. Donc on lui a collé un procès, on a porté plainte contre lui en l'accusant d'avoir tué son cousin. Donc il a été emprisonné et les agents de police, ils ont continué à le torturer, ils se sont vengés sur lui.
بعد الضغط اللي صار معناها من المجتمع المدني ايتو برشا وقفات احتجاجيه في سليانه في تونس قدام المحكمه قدام وزاره الداخليه باش دارما سيبوه.
Il vient d'être libéré là, il y a pas très longtemps et ça a été vraiment grâce à la pression de la société civile, des associations, il y a eu plusieurs sit-ins à Siliana et devant les tribunaux etc. C'est ce qui a permis sa libération.
Ça s'est passé dans quelle prison ça, Tara?
Morneguia.
Morneguia, c'est la prison de Tunis.
Oui.
Impossible de les calmer, à coups de jets de pierre, ces jeunes manifestants se disent prêts à en découdre. Au départ, chacun ici voulait dire son ras-le-bol de la pauvreté, mais à Siliana, à une centaine de kilomètres de Tunis, cette deuxième journée de grève générale a tourné une nouvelle fois à l'affrontement avec les forces de l'ordre.
France 24, 29 novembre 2012.
Nous manifestons de façon pacifique et les forces de l'ordre ont répondu par la violence. Ce gouvernement veut nous mettre à genoux.
Bilan des violences, près de 200 blessés. Ces hommes atteints par des tirs de la police dénoncent la brutalité des forces de l'ordre. Aux urgences de l'hôpital de Siliana débordé, on soigne les contusions, les fractures et les blessés les plus graves doivent être évacués vers Tunis. Le personnel médical dénonce l'utilisation de munitions interdites.
Avant, on avait des manifestants qui arrivaient ici blessés aux membres inférieurs. Mais maintenant, ils sont touchés au niveau des yeux. Ils arrivent presque tous avec des blessures aux yeux.
Objectif du mouvement social, demander la libération d'une dizaine de personnes arrêtées lors de la précédente grève en 2011. Mais aussi exiger le départ du gouverneur de la région, un membre du parti islamiste Ennahda, critiqué pour son incapacité à relancer l'économie.
Je n'appartiens à aucun parti politique, je n'appartiens qu'à la Tunisie. Je n'ai rien gagné à part la pauvreté et le chômage. Et en plus, je suis toujours célibataire.
Dans les rues, ici, les policiers de la garde nationale sonnent la charge barricadée dans leur fourgon. À Tunis, le cabinet du Premier ministre a juste déclaré sa préoccupation face à la violence des manifestants contre les forces de l'ordre.
Tension en Tunisie, crise politique même. Le parti Ennahda qui domine est tenté par la ligne dure, par une ligne dure en ce moment. Et effectivement, là, on vient de faire allusion à Nabil Harari, un militant du Front Populaire. C'est un regroupement des partis de la gauche de gauche, disons, en Tunisie, qui a été victime de violence lors des émeutes de Siliana à l'automne dernier. On va aller à Siliana dans les jours prochains et on évoquera ces moments de violence. On voit que certaines habitudes n'ont pas été perdues. On ne change pas tout d'un seul coup, même si évidemment on comprend très très bien l'impatience, on ne peut pas attendre, surtout les victimes qui veulent justice et réparation, les avocats, tous ceux qui défendent ce qu'on appelle en Tunisie la justice transitionnelle, promettent que cette année, oui, on va faire des réconciliations, des enquêtes d'abord, des conciliations entre les victimes et ceux qui ont été les auteurs de ces violences dans le passé. C'est un peu angélique, ça a marché dans un certain nombre de pays, je pense à l'Afrique du Sud, on se souvient aussi au Rwanda, il n'y a rien à voir évidemment avec le Rwanda, mais ce système de justice indispensable pour éviter le ressentiment. Rien n'est pire que le ressentiment lorsqu'il s'installe dans le cœur d'un peuple. Ça fermente lentement, de façon souvent difficile à déceler, et puis ça explose parfois plusieurs mois, plusieurs années plus tard, sous des formes qu'on a connues en Europe de manière terrifiante. Donc, attention à cette justice qui se fait durement attendre en Tunisie. On est avec Sabrine et à son compagnon.
Taha, tu es le compagnon, le mari de Sabrine ?
Oui.
Le mari ?
Oui.
Et par ailleurs, tu es journaliste ?
Je suis مراسل عند في جريده صوت الشعب حتى قبل ما تاخذ التاشيره نتاعها معناها ملي هي كانت في السريه.
Je suis en fait correspondant du journal Saut al-Shaab, la voix du peuple, et je travaillais avec eux avant que le journal prenne officiellement le visa, l'autorisation légale. Avant, comme c'était interdit du temps de Ben Ali, c'était un petit fascicule, on va dire.
Là, on voit le petit fascicule, Taha.
Saut al-Shaab, juin 2010.
C'est le journal La Voix du Peuple, ça date de juin 2010.
نشريه نتاع اتحاد الشباب دونك نتاع الى الامام اون افون اللسان المركزي لاتحاد الشباب الشيوعي التونسي.
Là, c'est un autre tract qui s'appelle Il a le même pour dire en avant. Et c'est le porte-parole central de l'Union des jeunes communistes tunisiens.
في 98, كنت توقفت قبل في 98, تلي كنت étudiant.
En 1998, j'étais étudiant à l'époque et j'ai été arrêté.
Les titres qui ont été arrêtés, c'est « Masque et Tarouij »
Et un des chefs d'inculpation pour lesquels j'ai été arrêté, c'était la distribution de ces tracts-là.
Alors là, on voit sur le tract un logo qui est connu, hein, qui est la faucille et le marteau. Et l'étoile, et l'étoile.
Entre l'étoile ou le chat.
On peut en déduire que vous êtes communiste.
Oui.
Ou proche, en tout cas.
Non, je suis membre du Parti des Travailleurs.
Et à l'époque, en 1998, quand vous étiez étudiant, vous avez été arrêté.
Fetihad Chabab, Chouir et Tunisie.
En 1998, j'étais dans l'Union des jeunes communistes tunisiens.
Et j'ai passé mes examens dans la prison avec mes camarades. On a réussi l'examen. J'ai passé 1 an, 9 mois. J'ai eu une peine de 3 ans et demi. Mais après un grand mouvement de solidarité nationale et internationale, Ben Ali nous les a libérés pour m'arrêter une deuxième fois en 2006. À cette époque, j'étais un membre du bureau exécutif de l'UGET. On avait un mouvement à Gafsa. On m'a arrêté. On était 7 personnes. Bon, j'ai eu 6 mois seulement cette fois.
Vous avez été arrêté à Gafsa 2 ans avant du mouvement du bassin minier de Gafsa, qui était une révolte populaire qui préfigurait la révolution tunisienne. La révolte de 2008 à Gafsa, c'était le déclenchement de la révolution.
هي كانت التعبيره الاجتماعيه والاقتصاديه نتاع الانتفاضه معناها
donc c'était vraiment l'expression économique et sociale de cette révolte.
لانه في السابق بن علي كان يحاول باش يغطي انه ثم ازمه اقتصاديه واجتماعيه
parce qu'à l'époque Ben Ali voulait cacher, il voulait tout faire pour cacher qu'il y avait une crise économique et sociale.
Donc, à partir de 2008, à Gafsa, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est vrai, nous ne pouvons pas parler, mais nous ne pouvons pas.
Ce qui s'est passé en 2008, on savait très bien qu'on ne pouvait pas parler, mais en 2008, on en est arrivé à ne plus pouvoir manger. Et c'est le déclenchement. Qu'est-ce que tu faisais à Gafsa en 2006 ?
J'ai dit dans le talaba, où quand on a un problème dans.
Donc à l'époque, j'étais dirigeante de l'Union des étudiants. Et à l'époque, on avait un problème à l'université. Donc il y a une toute petite anecdote, c'est que ma mère est venue me voir à Tunis le jour où je devais partir à Gafsa. Donc en fait, elle devait aller voir le médecin, mais elle est venue à l'université et du coup, elle a assisté à une assemblée générale à l'intérieur de l'université.
Après, بعد الاجتماع العام, قالت لي صايي معناها في الاجتماع تحكيت على انه مش نهبطوا القفصة ونعرفوا انه مش وقفونا ونعرفوا انه حتى كان توقفونا راه مش نبعثوا شكون et tout.
Pendant cette réunion-là, j'avais pris la parole et j'avais dit on va aller à Gafsa, on sait très bien qu'on va être arrêté, mais on va y aller quand même. On a eu 6 mois de prison. La tétine, elle avait perdu la tétine. يا بلادي الشعب ملقى ما يختار من بي جديد نتخبي ولا انت هزي لي شم ولي دو لا ميزير المال دو فيغ المال دو نتر باليبر لو سان نبا كولي pour que la révolte soit volée tes pieds en larmes tes yeux en sang à l'aube du grand saut des tristes tropiques aux grandeurs utopiques comme se larme le courage pour dénoncer les pillages notre cri à l'infini le rêve commun d'une autre vie ya chab el kari ya chab ya ami ya chab ya maski ya chab el kari ya chab el kari ya chab el kari ya tunas ya tunas ya tunas
chez nous la torture c'est devenu une science. Il vous torture avec des étapes. Par exemple, si je te tape avec le matraque, ça fait une douleur interrompue. Vous voyez, jusqu'à ce que vous sentez rien. Eux, ils ont trouvé une méthode que la douleur soit continue et progressive. Vous voyez, c'est ce que j'ai vécu en 98. Pendu tes mains ou tes pieds au plafond. C'était en mois de mars, il fait très froid, j'étais nu.
En dessous de moi, il y avait une flaque de sueur. Pourtant, il ne faisait pas chaud à cette époque-là.
Il fait très froid. La douleur, elle est insupportable. Jusqu'à ce que je m'évanouis. On me réveille et ça reprend. Mais avant tout ça, avant ce qu'on appelle la torture physique, il y a une torture psychologique. J'ai resté, à ce que je me rappelle, entre 3 à 5 jours. Je ne sais pas jusqu'à maintenant combien j'ai resté sans dormir. Et debout, hein. Debout.
Quand je perdais connaissance, on me jetait un seau rempli d'eau pour me réveiller.
En parallèle, j'ai un autre, le huwa nafsi, le huwa la torture de la famille, ou de la ceinture des amis, de ma petite amie et tout.
À part tout ça, il y a un autre aspect de la torture, c'est la torture psychologique, mais qui touchait la famille, les amis, les proches, le cercle d'amis, ma petite amie, etc.
Nous d'accord, وقت ma petite amie, معناها العوانم تاع الامن اللي هما نقول لهم دي اس تي وصلوا يدخلوا للدار. يدخلوا عليها للدار هي كارية فهمت مش كارية هي بوها شاري لها ابارتمون في باردو.
Et je me rappelle qu'à cette époque-là, il y avait des agents de sécurité qui allaient voir ma copine chez elle, dans un appartement qu'elle avait loué. Mais en fait, ce n'était pas vraiment un appartement loué. C'est son père qui lui avait acheté cet appartement.
في الوقت هذاك وصلوا معناها يدخلوا للدار يحل الفرجدار ويطيب ماكلة ولا يجبد ماكلة ياكلها وهي ما تنجمش تتكلم لأنه يهدوا فيه إنه يحكيوا لباه يقولوا لها راهي مصاحبة واحد في المعارضة.
Donc ces agents, ils se permettaient d'entrer chez elle, d'ouvrir le frigo, de se préparer à manger ou alors de manger directement. Et elle, elle ne pouvait rien faire parce qu'il l'a menacée de dire à son père qu'elle vivait avec un homme.
Sans le mariage.
Ils peuvent dire n'importe quoi. Ils peuvent créer des histoires que la famille ne peut pas accepter. Déjà, s'il disait qu'elle est la copine d'un opposant, déjà, c'est un grand problème pour une famille traditionnelle et tout, qui n'a pas à la politique et tout. Ça fait beaucoup de douleur.
Le fait qu'ils en arrivent à toucher ta famille, tes proches, tes amis, psychologiquement, c'est très très dur, c'était très très dur à accepter.
Et ça laisse toujours des traces. Quand je me rappelle ces actes-là, je ne peux pas... Enfin.
Quand je me rappelle de tout ça, je ne peux pas leur pardonner.
On peut parler beaucoup de ça, mais c'est tout.
Malgré tout ça, tu continues à militer.
On n'a pas arrêté de militer, non, parce que je ne suis pas le seul. Sabrine, avant qu'on se marie, elle a eu des problèmes aussi à cause de ses positions et en parallèle parce que j'avais des problèmes avec la police tunisienne. Elle a eu un accrochage avec un policier dans la rue.
Ce policier, il m'a agressé.
Ils m'ont arrêté en fait. Et j'étais en prison pendant un mois et demi.
Tu étais en prison pendant un mois et demi?
Oui, et après ils m'ont accusé d'être bourrée et que j'ai agressé moi-même le policier.
C'était quand?
Mars 2010.
2010.
2010.
L'année de la Révolution.
Oui.
Dans une prison pour femmes?
Oui.
Je savais pas qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je suis arrêtée.
Enfin, à cette époque-là, elle a porté plainte après qu'elle est sortie chez l'organisation
contre la torture.
Là où elle travaille maintenant. Elle s'est portée plainte, donc.
Mais on n'a rien fait jusqu'à maintenant et il n'a pas été puni, ce flic.
Il est toujours en fonction?
Oui. Et je l'ai vu plusieurs fois déjà.
Ah bon?
Oui.
Et alors?
Oh, pas rien. Il travaille.
وتوا رجع يخدم على روحه عادي وكيفي ولكن عنده قضيه تمشي لانه متهم معناها شاكين به.
Il a repris son poste, mais en même temps, il y a une affaire contre lui. Il est accusé, il y a des accusations qui ont été portées contre lui.
والتهم هذه مش موجهه من طرف الدوله, موجهه من طرف مواطنين.
C'est des plaintes qui ont été déposées non pas par l'État, mais par des citoyens, des avocats.
Oui.
Le groupe des 25.
Oui, exactement.
Qui milite pour la justice transitionnelle, mais qui pour le moment n'est pas appuyé par l'État.
C'est pas l'État qui ouvre le dossier. Tant qu'on n'a pas de dossier, les dossiers sont dans le ministère de l'Intérieur, dans le ministère de la Justice.
Et que vous ont répondu les ministres, les différents représentants, les responsables des NARDA, quand vous avez demandé à avoir les dossiers?
Si vous voulez porter plainte, allez-y, porte plainte. Même Mansour Marzouk lui-même, il a les dossiers. Parce que Ben Ali, avant, il a les dossiers au palais de Carthage. C'est lui qui donne, le chef direct qui donne les ordres.
Et
j'ai pas de preuves, il peut reporter plainte contre moi.
C'est ça, non?
Oui. Ce policier, je vais dire que le jour du 21 février 1998, j'étais arrêté et tabassé par ces trois personnes. Comment je vais prouver ça? Lui, il va prouver qu'il ne travaille pas à cette heure-là.
C'est ça. Tara, Sabrine, selon vous, quelles sont les solutions face à tous ces problèmes-là, la justice transitionnelle? Et puis, plus généralement, quelle vision vous avez de la Tunisie qui est en train de se mettre sur une nouvelle marche, enfin apparemment en tout cas, de cette Tunisie post-révolutionnaire ou en révolution?
Deuxième révolution. استحقاق شعبي, مطلب شعبي.
La deuxième révolution, maintenant, aujourd'hui, c'est devenu une revendication populaire. Pour une raison très simple, c'est que Nahda aujourd'hui tient au pouvoir.
Tous les groupes intégristes, quand ils tiennent le pouvoir, ils ne lâchent jamais, qu'avec le sang. Jusqu'à maintenant, le travail, la liberté et la dignité s'imposent comme des exigences et comme des revendications du peuple.
Le bébé s'est réveillé.
Oui.
Papa?
Oui, c'est mon fleurine.
Papa? Papa?
Il a faim.
Oui. Il m'a pas vu comme ça.
Allez, on y va. Merci Sabrine.
Merci.
Merci. Bye bye, call bye bye. Bye bye. Et je vous dis.
Hommage au révolutionnaire de Thawra Harbi. Et Tunis. Libye. Masr.
Merci à tous, c'était un reportage d'Anaël Verzo. Merci à Selma Zguidi, à Enda Grichen pour la traduction. Merci à Pierre Soujon, à Nicolas Beau, à Taha, à Sabrine et à Jaouaer. Vous retrouverez toutes les informations sur le site internet de France Inter et sur le site labas.org, où vous pouvez réécouter cette émission ou faire un tour également sur la page Facebook de l'émission. L'émission a été réalisée par Lucie Akoun et Chloé Sanchez, préparée avec Grégory Salomonovitch. Dofar Guérid et Jean-Philippe Jeanne étaient à la technique aujourd'hui, et Marion Dupas attend vos messages sur le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Robot-partie au Futuroscope.
Maman, danser avec un robot à 7 mètres de haut dans une ambiance électro-survoltée, tu crois vraiment que c'est de ton âge?
Oh, s'il te plaît!
Bon, mais tu me promets de pas crier.
La première robot-partie par Martin Solveig dans la nouvelle attraction du Futuroscope, c'est pour toute la famille.
Faites vite, moins 15% sur les séjours pour une réservation jusqu'au 11 avril.
Hello. Futuroscope.
Offre soumise à condition, consultez futuroscope.com.
France Inter présente Le Dernier Présent d'Alexis HK.
Je reviendrai auprès de tes amis.
Fin parolier et mélodiste, Alexis HK revisite la chanson française à sa manière, unique.
Issu des rangs de la middle class du Middle West.
Alexis HK sera en concert le 19 juin au Casino de Paris et en tournée dans toute la France.
Fils de hippie, fils de
sang. Retrouvez Alexis HK dans le programme musical de France Inter. Et sur franceinter.fr.
Tunisie, le réveil qui a bossé demain. La suite, il est 16h sur Inter. Je vous laisse pour les infos avec Gabriel Pereira. Salut!
Ils ont les yeux rivés sur la pendule, les 470 salariés de la raffinerie Petroplus. Le délai pour déposer les offres de reprise expire dans une heure. Pour l'instant, rien n'a filtré. Y a-t-il un ou des candidats sérieux? Hier soir, en tout cas, il n'y en avait pas, assure une source proche du dossier. L'État, de son côté, promet de mettre la main à la poche pour accompagner un éventuel repreneur. Dernière ligne droite dans les négociations chez Renault. Le constructeur automobile espère signer un accord de compétitivité avec les syndicats. Pour résumer, Renault s'engage à maintenir tous ses sites en échange notamment d'un gel des salaires. La CGT est vent debout et appelait aujourd'hui à des opérations usines mortes. C'était le cas à Flins, Douai, Le Mans ou encore Sandouville, où les appels à débrayer ont été très suivis. Chez le concurrent PSA, le blocage continue sur le site d'Aulnay-sous-Bois. L'usine qui doit fermer en 2014 est toujours à l'arrêt. Cet après-midi, un rassemblement de soutien des salariés était organisé sur place, des personnalités de gauche ont été aperçues. Le secrétaire national du Parti communiste Pierre Laurent, la députée Marie-Georges Buffet ou encore Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière. Ils sont soupçonnés d'appartenir à la mouvance islamiste. Quatre hommes ont été interpellés ce matin en région parisienne. L'enquête est menée par le juge antiterroriste Marc Trévidic. Elle vise une filière d'acheminement de djihadistes vers le Sahel. Huit personnes mises en examen à Marseille. Elles sont poursuivies pour avoir immobilisé un TGV à hauteur d'une cité sensible de l'est de la ville. C'était dimanche. Ces jeunes gens avaient expliqué qu'ils voulaient tourner un clip de rap. Le plus jeune des mis en examen a 13 ans. Le plus âgé, 36. Tous ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Au Mali, la ville de Kidal est désormais sécurisée. 1800 soldats tchadiens sont arrivés sur place aujourd'hui à l'extrême nord-est du pays. Ils devraient être rejoints par des soldats français dans les jours qui viennent. Par ailleurs, Jean-Yves Le Drian confirme qu'une mission européenne sera pleinement opérationnelle à partir du 15 février. Son rôle, former l'armée malienne. Cette mission mobilisera près de 500 hommes à l'échelle de l'Union européenne. L'Europe, justement, est le grand oral de François Hollande au Parlement de Strasbourg. Discours très attendu à deux jours d'un sommet européen consacré au budget 2014-2020. François Hollande en est persuadé. Un compromis est possible, mais il doit être raisonnable. Il va falloir raisonner ceux qui veulent amputer le budget européen au-delà de ce qui qu'il est possible d'accepter. Fin de citation. Le président iranien dans les bras du président égyptien. L'image était impensable il y a encore 2 ans, du temps d'Hosni Moubarak. Une page se tourne. Mahmoud Ahmadinejad a été accueilli en grande pompe aujourd'hui au Caire par Mohamed Morsi. C'est la première visite d'un dirigeant iranien en Égypte depuis 1979, date à laquelle les deux pays ont rompu leurs relations diplomatiques. 16h03 sur Inter.
Demain.
Bonjour.
France Inter présente
Alfred Hitchcock.
À l'occasion de la sortie en salle du film Hitchcock avec Anthony Hopkins, France Inter consacre toute une journée au maître du suspense.
Now just be quiet. Ladies and gentlemen, Alfred Hitchcock.
À suivre demain sur France Inter.
Vous avez une question pour moi?
À partir de 7h.
France Inter.
La voix est libre.
Et c'est l'heure de Carrefour de l'Odéon. Avec vous, bien sûr, Frédéric L'Odéon, bonjour.
Merci beaucoup, Gabriel Pereira. On vous retrouve à 17h. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Trois axes aujourd'hui, Hitchcock bien sûr et ses musiciens. En attendant ce film qui sort demain, consacré au maître un peu étrange et inquiétant, c'est ça qu'on aime aussi, avoir peur sans trop de danger. Et puis on va entendre Sergueï Rachmaninov sous les doigts d'un artiste évidemment déjà bien connu, Nikolaï Louganski, qu'on a déjà diffusé ici, et puis il n'a pas besoin de nous, mais enfin on l'adore, pianiste russe, enfant de scientifique, champion d'échecs à 16 heures, et surtout maître de la musique romantique, donc un coup de cœur va lui être délivré, coup de cœur Carrefour de l'Odéon concertclassique.com où on va trouver une belle interview d'Alain Cochard comme régulièrement. Et puis je recevrai à 16h30 le contre-ténor Max-Emmanuel Chenchik qui nous propose un disque consacré à la sérénissime Vivaldi et les autres bien sûr. Alors d'abord on va se donner le petit frisson et c'est dans l'inconnu du Nord Express daté de 1951 qu'on peut entendre la musique de Dimitri Tionkin. Et ce qui se passe là-dedans, c'est un champion de tennis qui monte dans un train, il rencontre un inconnu qui lui propose un marché étrange. Mais s'il supprime sa femme envahissante, et ils vont éliminer quelqu'un d'autre qui gêne aussi. Voilà, donc il supprime sa femme et l'autre va éliminer son propre père afin qu'il obtienne l'héritage. Le héros, c'est pas beau ça, vraiment. Et ce héros, c'est un champion de tennis. Ils vont finir par s'oublier l'un et l'autre parce que chacun croit que l'autre est fou. Puis quelques temps plus tard, la femme du champion de tennis est assassinée. Alors évidemment, on ne sait pas qui a fait le coup, mais enfin on va le savoir en allant voir le film. Bien sûr, l'inconnu du Nord Express, thème principal Dimitri Tiomkin. C'était le générique de ce film L'inconnu du Nord Express, Stranger on a Train, de 1951, d'Hitchcock bien sûr. Et cette musique illustre une scène assez fameuse, on ne voit que les chaussures des deux personnages qui se rendent à la gare, et la musique suggère le caractère de ces deux destins qui vont bientôt se croiser. Voici maintenant La main au collet, To Catch a Thief, 1955, avec Cary Grant, Grace Kelly, l'inoubliable Charles Vanel, et oui, Cocorico. Donc là, un ancien cambrioleur surnommé Le Chat est suspecté d'une série de vols commis sur la Côte d'Azur. Il cherche à identifier le coupable pour se disculper, et puis la milliardaire, Mrs. Stevens et sa fille Frances, sont les appâts de choix que veut utiliser Le Chat. Et la belle Frances n'est pas indifférente à l'ancien cambrioleur. Musique de Lynn Murray. Hitchcock, ça, hein, tout va bien, et puis brusque.